RFI Radio France Internationale, 7h44 à Paris et Kinshasa, prochain journal international dans un quart d'heure à la une. Notre dossier, David Thompson nous dira tout ce qui entoure cette entrevue aujourd'hui à Washington entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump. Avant ça, notre invité Afrique et tout de suite la presse. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, l'USAID, l'agence américaine pour le développement international, menacée de liquidation.
Chargée par Donald Trump de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral, Elon Musk a donc annoncé hier la prochaine fermeture de cette agence humanitaire qui gère des milliards de dollars d'aide à travers le monde et bien sûr notamment en Afrique. On passe des paroles aux actes, soupire aujourd'hui à Ouagadougou. Les craintes de nombre d'observateurs au sujet de l'avenir de l'aide humanitaire accordée aux pays en développement par les États-Unis semblent bien légitime. Depuis hier lundi, en effet, l'USAID connaît une situation critique, pointe le quotidien burkinabé. En effet, l'agence a vu son site principal placé hors ligne, tandis que des milliers de comptes de messagerie de ses employés ont été désactivés. Ces événements surviennent dans un contexte de rumeurs sur une possible élimination pure et simple de l'agence et de réduction soudaine de l'aide étrangère américaine, ce qui soulève des préoccupations majeures quant à l'avenir de l'assistance humanitaire et au soutien aux pays en développement.
L'offensive de Donald Trump avait débuté dimanche, pointe le monde africain.
Oui, l'USAID est dirigée par une bande de fous extrémistes et nous les virons et ensuite nous prendrons une décision sur l'avenir de l'organisation, avait déclaré le président américain devant la presse. Un scénario non confirmé serait que l'agence tombe dans l'escarcelle du département d'État. Elon Musk avait déjà multiplié le même jour les propos acerbes contre l'USAID sur sa plateforme X, relève encore le monde Afrique. Il l'avait d'abord qualifié d'organisation criminelle, reprenant ainsi des propos selon lesquels l'institution gouvernementale mène les bases œuvres de la CIA et se livre à de la censure sur Internet. Il avait ensuite affirmé à ses 215 millions d'abonnés, avec l'argent du contribuable, l'USAID a financé des recherches sur les armes biologiques, dont le Covid-19, qui a tué des millions de personnes. Des accusations non étayées qui, selon des responsables de l'administration Biden, proviendraient d'une campagne de désinformation russe.
Commentaire du site d'information Tunisie Numérique.
Au total, 120 pays vont rester sur le carreau. C'est un nouveau coup dur pour l'Afrique, s'exclame Tunisie Numérique. On ne sait pas si l'agence renaîtra sous une autre forme que le président Trump et son copain milliardaire jugeront plus efficiente et conforme aux idéaux de la Maison-Blanche. En tout cas, ça s'arrête net, sans crier gare, pour le premier pourvoyeur d'aide dans le monde, soupire encore Tunisie Numérique. Une violence inouïe qui rappelle l'inhumanité avec laquelle Musk a taillé dans les effectifs de Twitter. Ainsi s'efface une agence indépendante phare instaurée par une loi du Congrès américain et qui ventilait pas moins de 42,8 milliards de dollars sur la planète, surtout dans l'humanitaire et l'aide au développement.
Autre menace américaine de coupure de financement, cette fois en direction de l'Afrique du Sud.
Oui, on en parlait dans le journal. Donald Trump semble soudainement s'intéresser aux affaires intérieures des pays africains, relève Jeune Afrique, avec cette charge donc contre Pretoria. Trump se dit indigné et menace d'arrêter l'aide américaine après l'entrée en vigueur d'une loi en Afrique du Sud sur la redistribution des terres. Trump dénonce une confiscation de certaines terres appartenant à des Blancs. Pour le Djeli en Guinée, cette réaction de Trump pourrait laisser penser qu'il est contre les efforts visant à corriger les inégalités héritées de la colonisation et de l'apartheid en Afrique du Sud, et que ses liens avec Elon Musk, le milliardaire d'origine originaire du pays de Mandela, ils sont pour beaucoup. Et cela révèle peut-être un côté moins avouable du leader républicain, pointe le site guinéen, à savoir son racisme. Bien sûr, personne n'a envie de revivre une réforme agraire aussi bâclée que celle qu'a menée l'ancien président Mugabe au Zimbabwe, mais il n'est pas non plus possible d'ignorer les importantes disparités qui minent la société sud-africaine en matière de propriété foncière.
La presse sud-africaine reste prudente.
Oui, la présidence va engager avec Trump des discussions sur la politique de réforme agraire afin de dissiper les malentendus, pointe le site IOL. En attendant, les déclarations de Trump ont affaibli le rand, la monnaie sud-africaine, face au dollar, relève le quotidien The Citizen. The Citizen qui précise que l'Afrique du Sud reçoit par an un peu plus d'un milliard de dollars d'aide publique au développement, selon les derniers chiffres de la Banque mondiale, dont la moitié en provenance des États-Unis, principalement via l'USAID. un financement qui pourrait donc disparaître.
Frédéric Couteau, à tout à l'heure, vous revenez à 8h15.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et l'actualité de ce mardi, c'est notamment cette rencontre prévue à Washington aujourd'hui entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump. Objectif, parler de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Israël qui enverra en fin de semaine une délégation au Qatar pour discuter de la poursuite de ce cessez-le-feu. Ce matin, l'État hébreu annonce avoir tué, je cite, un terroriste au cours d'un échange de tirs dans le nord de la Cisjordanie occupée où l'armée israélienne mène une opération militaire depuis plusieurs jours. Cette riposte de la Chine annoncée ce matin alors que les nouveaux droits de douane américains doivent entrer en vigueur aujourd'hui. Le ministre chinois des Finances annonce ces dernières heures un flot de mesures miroirs des droits de douane de 15%, notamment sur les importations de gaz naturel liquéfié et de charbon américain. Pékin qui a déposé plainte auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Concernant toujours les droits de douane, hier, la hausse de ces taxes à l'encontre du Mexique et du Canada a été suspendu pour un mois en raison d'un accord trouvé pour que Canada et Mexique s'engagent notamment à mieux surveiller leurs frontières communes avec les États-Unis. En République démocratique du Congo, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU donne un nouveau bilan des affrontements de la semaine dernière à Goma. L'OCHA parle de 900 morts. Côté diplomatie, les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe organisent vendredi et samedi un sommet à Dar es Salaam en Tanzanie. Le président rwandais confirme sa présence. Le Conseil de sécurité de l'ONU, de son côté, travaille à une résolution. Selon la Chine, qu'il préside, l'opinion dominante est que le Rwanda devrait cesser de soutenir le M23 dans son offensive militaire. Fin de citation. Le président syrien par intérim, attendu en Turquie aujourd'hui, Ahmed Al-Shara, doit être reçu par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et puis en France, le Sénat devrait adopter aujourd'hui le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte, 2 mois après le passage dévastateur et meurtrier du cyclone Chido dans le territoire français. Notre grand invité Afrique ce matin, Vincent Nouzil, qui publie avec Karl Lasquet chez Robert Laffont le livre « L'assassin qu'il fallait sauver », un livre, ou plutôt une plongée dans l'affaire du financement libyen présumé par l'ex-dictateur libyen Muammar Kadhafi de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007, ce que nie en bloc l'ancien président français qui comparaît dans cette affaire depuis le 6 janvier. Or, ce livre se base tout particulièrement sur le rôle qu'a joué un personnage, le beau-frère du colonel Kadhafi, Abdallah Senoussi, maître espion de Tripoli et vraisemblablement au cœur de cette affaire. Vincent Nouzil répond à Christophe Boisbouvier.
Vincent Nouzil, bonjour.
Bonjour.
Le 19 septembre 1989, un avion DC-10 de la compagnie UTA explose en plein vol au-dessus du Niger. 170 morts, dont 54 Français, 48 Congolais de Brazzaville, 25 Tchadiens. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire de l'Afrique. Et aujourd'hui, grâce à votre enquête, on sait enfin exactement par qui et comment ce crime a été perpétré. Quels documents avez-vous découvert ?
Alors nous nous basons avec Karl Lasquet, donc journaliste à Mediapart, sur une série de documents libyens qui nous ont été fournis par un imprimeur libyen, dont le nom figure d'ailleurs sur la couverture du livre, il s'appelle Samir Chagouara, et il a eu accès à les archives d'Abdallah Senoussi. C'était le chef des services secrets libyens, c'était le numéro 2 ou 3 du régime de Kadhafi, et c'était le beau-frère de Kadhafi également. Et Abdallah Senoussi a été mis en cause par le juge Bruguière, la justice française, dans cette affaire de l'attentat du DC-10 du avec 5 autres Libyens. Le procès a eu lieu par contumace, c'est-à-dire en leur absence, en mars 1999 à Paris, et ils ont été condamnés à la perpétuité. Donc il n'y a pas de doute sur la responsabilité d'Abdallah Senoussi et de ses Libyens. Mais ces documents d'Abdallah Senoussi, ces archives secrètes qui sont pour la première fois révélées dans ce livre, donnent à voir les préparatifs très minutieux de ces attentats. Et c'est ça que c'était intéressant, parce que on avait une vision évidemment partielle, parcellaire, de la responsabilité directe d'Abdallah Senoussi. Et là, dans les documents, il y a par exemple des réunions qui se passent au siège des services secrets, donc avec Abdallah Senoussi, qui donnent des consignes pour frapper des avions français. Il y a aussi, par exemple, des tests qui sont faits par les services secrets libyens sous la conduite d'Abdallah Senoussi dans le désert libyen pour tester, par exemple, des explosifs et aussi pour tester, dans un deuxième temps, des valises piégées. Or, c'est exactement le mode opératoire qui a été employé dans l'attentat du DC-10, puisque c'est une valise samsonite bourrée de Semtex qui a été embarquée dans l'avion UTA avec un passager à l'insu de son plein gré, si je peux dire, et qui a été sacrifié par les services libyens. Et c'est cette valise qui a explosé. Ce mode opératoire a été décidé lors de tests, puis de réunions au sommet avec Abdallah Senoussi. C'est ces documents que nous révélons.
Alors, 10 ans après cet attentat, en 1999, le beau-frère du colonel Kadhafi, Abdallah Senoussi, est donc condamné par la justice française. Mais le colonel Kadhafi essaie de faire réviser ce jugement. Et à partir de 2003, il multiplie les contacts avec des hommes politiques français. Il semble qu'il en parle d'abord au président Chirac, puis au ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, lors d'une visite de celui-ci à Tripoli. Comment réagissent Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ?
Alors le président Chirac va être assez flou sur la réponse qu'il peut donner, en disant « je vais étudier la question ». Ça, c'est 2003-2004. Arrive la perspective de Nicolas Sarkozy, qui va être le candidat à la présidentielle de 2007. Il est à l'époque ministre de l'Intérieur, nous sommes en octobre 2005. Oui, il va à Tripoli et le guide en parle effectivement à Sarkozy lors de sa visite du 6 octobre 2005. Et puis ensuite, quelques semaines plus tard, l'avocat personnel de Nicolas Sarkozy se rend à Tripoli pour discuter avec les avocats de Senoussi sur la manière de régler le problème. Donc, le sujet a été abordé, et non seulement le sujet a été abordé, mais il y a bien eu l'envoi d'une mission d'avocats pour tenter de régler le problème. Alors, c'est une promesse qui est faite, peut-être par Nicolas Sarkozy directement à Kadhafi, et c'est ce que la justice française suspecte, qu'il y a peut-être eu un arrangement, un deal secret entre l'équipe de Sarkozy et Kadhafi. Nous allons vous donner de l'argent pour votre campagne électorale, en échange de quoi il faudra régler le problème de Senoussi.
Est-ce que vous avez contacté Nicolas Sarkozy dans le cadre de votre enquête ?
Oui, nous avons contacté Nicolas Sarkozy, mais comme le procès qui a lieu actuellement, qui a démarré le 6 janvier au tribunal de Paris, allait démarrer, il nous a fait répondre qu'il ne souhaitait pas nous répondre.
Alors il y a la situation judiciaire de Nicolas Sarkozy, mais il y a aussi celle d'Abdallah Senoussi, l'organisateur de l'attentat de 1989. Il est toujours vivant. Qu'est-ce qu'il devient ?
Alors Abdallah Senoussi, on a essayé de le joindre pour cette enquête. On n'a pas réussi à le joindre. Il est actuellement en prison en Libye. Et il faut savoir que les familles des victimes du DC-10 du TA en France souhaitent et espèrent un jour avoir un procès, le vrai procès de Senoussi, Senoussi dans le box.
Bah oui, puisqu'il a été condamné par contumace.
Par contumace, c'est-à-dire en absence. Et donc, peut-être que les éléments nouveaux que nous révélons sur son implication décisive dans la préparation des attentats va réveiller la justice française afin peut-être que la France redemande son extradition depuis la Libye.
Vincent Nouzil, merci.
Vincent Nouzil, co-auteur avec Karl Lasquet du livre « L'assassin qu'il fallait sauver ». Maman, votre chronique du Gondwana, comme chaque jour et ce matin, vous nous dites qu'au Gondwana, la double nationalité est très en vogue.
Oui, dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, tu ne peux pas les louper. Ces Gondwanais dans leur gros 4x4 rutulant, jantes chromées, vitres fumées, gros gamos, dont je ne donnerai pas le prix ici, de peur de provoquer une épidémie d'AVC parmi vous, chers auditeurs. Dès qu'ils passent à grande vitesse dans de gros nuages de poussière qui te colorent ensuite toute la chevelure et le visage comme du fond de teint, t'entendras un gars à côté de toi dire tout doucement hey, « ces gars-là, ils ont tous la double nationalité hein. ». Tu vois leur gros 4x4 ensuite entrer et se garer dans le parking du plus grand hôtel de la capitale. Tu les vois en descendre, lunettes noires sur le nez, sapés comme jamais en fonction des us et coutumes du coin, toujours accompagnés d'une flopée de gens, bimbo, porteurs de sacs, porteurs de téléphones portables, gardes du corps, etc. Tu entendras les vigiles et les clients de l'hôtel chuchoter tout doucement hey, « double nationalité, ils ont la double nationalité ». Bon, chers auditeurs, je suis sûr que tu es en train de penser à tous ces gens détenteurs et du passeport rouge Bordeaux et du passeport gondouanais. Tous ces gens qui te narguent avec leur carte vitale, ces gens qui ne passent pas au même guichet que toi à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Tu penses à tous ces autres gens avec leur passeport bleu marine avec l'aigle US dessus ou la feuille d'érable. Ce n'est pas de cette double nationalité que je te parle, mon ami. Bah oui, au Gondwana, on se comprend tout de suite hein, quand on te montre quelqu'un du bout du menton avec ces mots. Il a la double nationalité. Eh oui, ça n'a rien à voir avec ces deux passeports. Ça a tout à voir avec comment il a acquis tout ce clinquant que tu vois, tout ce bling-bling qui t'éblouit. Alors, ce gars, ben son premier passeport, c'est celui que tout le monde connaît. Et son deuxième, ben c'est celui qu'il cache. Parce que dans cette double nationalité en vogue au Gondwana, tu ne montres jamais ton deuxième passeport. Tu le gardes enfoui au fin fond de la nuit. Bon, tu as compris. compris, hein, je crois. Bah oui, quand je dis passeport, nationalité, il faut comprendre travail, job, métier, profession, dans le sens comment tu gagnes ta vie. Double nationalité veut dire que tu as deux métiers, deux professions. Un métier légal, officiel, aux yeux de tout le monde, tes voisins, la police, les impôts, et un deuxième métier, pas trop légal, pas du tout même, hein, un métier officieux, que tu caches à tout le monde, tes voisins, les impôts, la police, surtout parce que c'est un métier très très lucratif. C'est ce métier-là qui t'apporte tous ces 4x4, ces villas, ces voyages au-delà des océans. Mais comme en grammaire, ce deuxième métier doit se mettre à l'infinitif. C'est pour ça que les gens chuchotent ta double nationalité lorsque tu passes dans la rue. C'est plus prudent pour eux. En effet, les gars comme toi qui ont la double nationalité sont souvent très très dangereux. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'arrête net ici. Hein. À demain.
À demain, maman.
Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes sur le site RFI.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com jusqu'au 16 février. À vous de voter.
Biela Real Courts et RFI Talent présentent Gabriela Lima. Découvrez Meu Lugar, le deuxième single de l'artiste brésilienne. Disponible sur toutes les plateformes.